Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
Joséphine n'est pas une femme que l'on peut caricaturer facilement. C'est une femme qui en a incarné beaucoup.
La curiosité est un vilain défaut.
Joséphine devient impératrice en épousant un jeune général plein d'avenir, Napoléon Bonaparte.
Jusqu'à 22h.
Et elle a donné à cet empire très militaire une face féminine.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Elle est morte il y a 200 ans, on va bientôt commémorer le 2 décembre prochain, ce jour où elle fut couronnée par son empereur de Marie. Mais qui était Joséphine de Beauharnais? Comment cette veuve qui trompait Napoléon et qui n'arriva jamais à lui faire d'enfant réussit-elle à rester sa femme pendant 16 ans? C'est ce que va nous raconter tout de suite Bernard Chevalier. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directeur des musées nationaux de Malmaison et de Bois-Préau et vice-président de la Fondation Napoléon, grand connaisseur du destin hors norme de Joséphine. Et alors, comme tout le monde, j'ai dit Joséphine de Beauharnais, je vous ai vu tiquer.
Oui,
pourquoi?
Bien sûr, parce qu'elle ne s'est jamais appelée comme ça de son vivant. En réalité, elle a eu un prénom usuel jusqu'à temps qu'elle rencontre Bonaparte, qui était Rose. Tout le monde la connaissait sous le nom de Rose de Beauharnais. Et c'est du jour où Napoléon l'a rencontrée, il a voulu changer ce prénom qui avait été peut-être prononcé par trop de lèvres masculines, dirons-nous. Et il a féminisé son second prénom de Joseph en Joséphine. Donc à partir de ce moment-là, elle s'est appelée Joséphine Bonaparte.
D'accord.
Alors pourquoi Joséphine de Beauharnais? C'est difficile à dire, j'ai une explication, c'est qu'au moment où elle est morte en 1814, les feuilles ultra-royalistes ont annoncé la mort de Madame Veuve de Beauharnais. C'est extraordinaire, comme si Napoléon n'avait jamais existé. Et comme on la connaissait sous le nom de Joséphine, on a accolé Joséphine à Beauharnais et Joséphine de Beauharnais était née.
Alors vous avez évoqué ces lèvres masculines, c'est vrai que quand on parle de Joséphine l'impératrice, on a en tête une séductrice. Est-ce que c'est comme ça qu'elle a tenu Napoléon pendant si longtemps?
Je pense qu'elle a fait découvrir à Napoléon, soyons clairs, l'amour physique, c'est évident. Et puis après, elle a montré des talents tout à fait extraordinaires quand Napoléon est devenu empereur. Et c'était vraiment la femme qu'il lui fallait, la femme qui s'est glissée dans ses habits d'impératrice avec une aisance que tout le monde a reconnue. Dans tous les mémorialistes du 19e siècle, personne ne dit vraiment de mal de Joséphine parce qu'elle était bonne, elle a tenu son rôle bien mieux que d'autres et elle proclamait à tout le monde qu'elle était la bonne étoile de Napoléon.
D'où vient Joséphine? Des Antilles, c'est ça?
Alors Joséphine est née à la Martinique, d'une famille d'origine vendômoise dont le grand-père de Joséphine est venu s'installer en Martinique en 1726 pensant y faire fortune, ce qu'il n'a pas fait, et elle est née donc sur la paroisse des Trois-Îlets en face de Fort-de-France en 1763.
C'est une famille noble de l'aristocratie?
C'est une très grande famille, très ancienne, désargentée, mais certains des ancêtres des Tachères, puisque son patronyme c'est Tachère de la Pagerie, ont fait les croisades. Donc c'est quand même tout à fait important, les croisades c'est quand même la vraie noblesse. Contrairement aux Beauharnais qui ont été anoblis au 15e siècle, c'est la noblesse de robe, de marchand, beaucoup moins importante, mais beaucoup plus riche que n'étaient les Tachères.
Donc famille désargentée, jeune fille qui naît aux Antilles, en Martinique, et pourtant elle croit en son destin. Pourquoi ?
C'est un destin extraordinaire. D'abord, il faut savoir qu'il a été beaucoup aidé. Sa tante, donc la propre sœur de son père, était la maîtresse du gouverneur de la Martinique, le marquis de Beauharnais. Et ce qui aide évidemment beaucoup les choses. Elle n'a eu de cesse qu'une de ses nièces, donc fille de son frère, n'épouse le fils du marquis, le jeune Alexandre. Et c'est comme ça que le mariage s'est fait en réalité. Donc comme monsieur de la Pagerie avait trois filles, la première est morte trop tôt, la seconde s'accrochait au basque de sa mère, ne voulait pas aller en métropole, et finalement on s'est rabattu sur l'aînée, sur Rose, qui ne rêvait que d'une chose, c'est de voir Paris, de voir la cour, et elle est partie à l'âge de 16 ans vers son destin, qui a été un destin tout à fait hors du commun.
Elle s'est mariée à 16 ans ?
Elle s'est mariée à 16 ans avec Alexandre de Beauharnais qu'elle ne connaissait pas, comme tous ces mariages arrangés dans l'Ancien Régime. Mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que Joséphine est une femme ancrée dans le XVIIIe siècle. Elle est née en 1763, c'est-à-dire qu'elle n'a que 8 ans de différence avec la reine Marie-Antoinette. Et que lorsqu'elle rencontre Bonaparte, elle a vécu plus de la moitié de sa vie.
D'accord. Je disais, elle croit en son destin. Est-ce que c'est vrai qu'une voyante lui a prédit un destin hors norme ?
Alors oui, bien sûr, il y a cette prédiction qui aurait eu lieu lorsqu'elle était enfant en Martinique. La première fois où on la voit apparaître, cette prédiction, c'est dans un journal en 1797, alors qu'à ce moment-là, elle est déjà la femme du général vainqueur de la campagne d'Italie. Mm-hmm. Mais elle a tellement dit à tout le monde, tellement répété que pourquoi ne pas y croire ? On lui a dit qu'elle serait reine, voire plus que reine, ce qui a été évidemment la réalisation de son destin.
Oui, évidemment, puisqu'elle est devenue impératrice. Donc, la première rencontre avec Bonaparte, on va prendre un peu plus de temps tout à l'heure pour la raconter. Mais je voudrais d'abord que vous nous expliquiez comment ça se termine, ce premier couple avec Alexandre de Beauharnais. Ils se séparent, ça marche pas, ils ont des enfants,
Le mariage n'a pas été heureux, comme beaucoup de mariages arrangés. Au début, il y a eu un enfant, un fils, Eugène, qui est né en 1781. Et puis, il faut dire que Beauharnais est un homme à la mode, qui avait déjà une maîtresse, un enfant naturel, trouvait que la petite Rose n'avait pas une éducation très très développée, lui donnait des conseils. Et en fait, la maîtresse d'Alexandre lui avait mis en tête que la fille qui allait naître, Hortense, n'était pas la sienne parce qu'il manquait 8-10 jours avant la date fatale de l'accouchement. Donc, ça a été vraiment des sources de conflits. Le mari était suspicieux, jaloux, ça s'est très mal passé, au point que Joséphine a décidé de quitter le foyer pour s'installer dans le couvent de Pantemont et intenter une action contre son mari.
Pour pouvoir se séparer, en fait.
Pour pouvoir se séparer, parce que le divorce n'existait pas à l'époque. Donc c'est une séparation à l'amiable. D'ailleurs, au tort du mari, puisque le père d'Alexandre lui-même a accueilli Rose chez lui.
Alors, on va avancer dans le temps. Ce qui va changer pour de bon le destin de Rose de Beauharnais, c'est sa rencontre avec le général Bonaparte. Dans un instant, on vous emmène dans le salon parisien où ils se sont vus pour la première fois. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On est curieux du destin hors norme de Joséphine de Beauharnais, pardon, mais je vais continuer de l'appeler comme ça, celle qui est devenue impératrice le 2 décembre 1804, il y a bientôt 210 ans. Notre invité vice-président de la Fondation Napoléon connaît la vie de Joséphine, qui s'appelait encore Rose quand elle rencontre Bonaparte pour la première fois. Alors, c'est un coup de foudre ou c'est un coup monté ?
C'est un coup de foudre unilatéral. Bon, Joséphine, il faut dire, sortant des geôles révolutionnaires, où elle a vécu quand même pendant 3 mois des moments horribles, épouvantables, où elle pensait à chaque instant passer à la guillotine, en sortant, c'est comme tous les gens qui ont connu un péril très fort, envie de s'amuser, de vivre, et Joséphine s'est toujours rapprochée des gens qui avait le pouvoir, non pas pour l'exercer, mais pour avoir les bénéfices que ça génère. Donc elle s'est rapprochée des directeurs et principalement de Barras. Et c'est dans le salon de Barras qu'elle a rencontré ce jeune général Bonaparte. Bon, il faut dire qu'elle est veuve, elle a 2 enfants qui sont considérés comme, dirait maintenant, des pré-ados, 10-12 ans. Il lui faut quelqu'un, un protecteur. Donc elle cherche un militaire, elle avait déjà un mari général. Et puis ce jeune général qui avait vaincu les royalistes sur les marches de Saint-Roch s'était acquis quand même une certaine réputation dans le milieu. Et elle s'est dit, pourquoi pas celui-là plutôt qu'un autre. Bon, c'était comme ça une... Le problème, c'est qu'elle n'a pas du tout imaginé que le mari allait tomber amoureux. Ça n'était pas prévu du tout au programme.
Donc c'est Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque,
qui
tombe vraiment
absolument
amoureux d'elle.
Joséphine fait un mariage en aristocrate d'ancien régime. Parce qu'un mari amoureux, mais attendez, c'est bon pour les bourgeois ça. Ça se fait pas dans l'aristocratie. Combien de femmes dans l'ancien régime avaient des amants, étaient mariées, étaient mères d'enfants dont les maris n'étaient pas le père? C'est une question habituelle ça. Or, il est amoureux, il lui envoie des lettres enflammées, passionnées, ça l'amuse. Parce que c'est quand même un jeuneau par rapport à elle, il a 6 ans de moins qu'elle, c'est vraiment extraordinaire pour elle. Et puis elle voit ce mari qui monte, qui monte, qui monte, et qui devient finalement un homme très important et absolument incontournable.
Et comment la famille Bonaparte voit cette union, ce mariage entre les...
Ce mariage a été considéré un peu comme une vendetta de la part des Bonaparte, parce que Napoléon se considérait comme le chef de la famille alors qu'il n'était pas. C'est son frère aîné Joseph qui était le chef de famille. Il a prévenu ni son frère, ni sa mère, qui ont été mis devant le fait accompli. Et évidemment, pour ces gens qui sont de Corse, qui ont une mentalité différente, une éducation différente, voir cette femme du monde, cette aristocrate qui vit dans les plaisirs de la vie parisienne, mais c'est absolument impensable. Donc il y a déjà des moments qui se passent très très mal, et ça a été on peut dire quasiment une vendetta, et ils n'ont eu de cesse que de la voir sortir du clan.
Qui a duré 16 ans, en fait, toute la durée.
Ça a duré jusqu'au moment du divorce.
Ouais,
et ça a été vraiment la fin de la vendetta au moment du divorce.
Pour parler d'une façon un peu triviale avec des mots d'aujourd'hui, ils ne l'ont pas lâché, c'est ça?
Absolument, ça a été horrible. Et on voit dans des lettres de Joséphine à ses enfants, mais pourquoi sont-ils comme ça avec nous? Ça serait si facile s'ils vivaient normalement, enfin, avec des relations normales dans une famille.
Oui. Alors en même temps, vous l'avez évoqué, Joséphine, c'est pas non plus l'épouse idéale, au moins dans les premières années de mariage. Qu'est-ce qu'elle fait quand son général de mari part pour la campagne d'Italie?
Bah déjà, peu de temps après le départ du mari, elle rencontre un jeune lieutenant de hussards qui l'amuse beaucoup par ses calembours, beaucoup plus drôle que son mari, ce qui n'est pas très très difficile évidemment. Et elle s'y attache beaucoup, elle sort au théâtre avec lui. Vraisemblablement, elle est devenue sa maîtresse et elle n'a pas du tout envie de rejoindre son mari en Italie. On y fait la guerre, c'est dangereux, et au point que lorsque Bonaparte menace de remonter à Paris, au moins serrer sa femme dans ses bras pendant 48 heures, le directoire prend peur. Et à ce moment-là, on fourre Joséphine dans une voiture avec...
on l'oblige à partir.
Mais oui, on l'oblige à partir à Milan, avec Junot, avec Joseph et avec Hippolyte Charles, le lieutenant de Hussard qui l'accompagne dans la voiture jusqu'à Milan.
Attendez, j'ai bien entendu. Donc son amant l'accompagne en Italie.
Dans la voiture, absolument, oui, jusqu'à Milan.
C'est très ancien régime, ça, effectivement.
Oui, mais tout à fait, c'est ce qui la rend sympathique, d'ailleurs.
Et Napoléon, Bonaparte, il se doute de quelque
chose?
Non,
pas du tout. Non. Il a eu les yeux ouverts seulement pendant la campagne d'Égypte en 1798-99.
Alors comment, justement, a-t-il ouvert les yeux sur...
C'est-à-dire que
sur ses cornes qui lui poussaient.
C'est Joseph qui lui a dit que sa femme le trompait. Et à ce moment-là, il a décidé de divorcer. Il a pris une maîtresse en Italie, Pauline Fourest, Bédilotte. Et quand il est revenu d'Égypte, vous connaissez l'épisode, Joséphine informée prend peur. Elle descend immédiatement à sa rencontre. Mais évidemment, il y a deux routes pour monter sur Paris, une par le Bourbonnais, une par la Bourgogne. L'un prend l'une, l'autre prend l'autre. Et quand Bonaparte arrive à Paris, elle n'est plus là.
Et alors, que fait Bonaparte?
Eh bien, il prend les bagages de Joséphine et il les met chez la loge du concierge.
Et quand elle revient?
Eh bien, elle ne peut pas rentrer.
Elle trouve ses malles, c'est ça?
Ses malles sur le trottoir, quasiment.
Génial, on voit la scène. Qu'est-ce qu'elle fait?
Alors, Joséphine, elle frappe, elle pleure, elle tambourine à la porte, rien n'y fait. Bonaparte ne cède pas. Et finalement, Joséphine décide de demander à ses enfants, Eugène et Hortense, de l'aider à supplier Bonaparte. Et là, Bonaparte ne résiste pas aux larmes de ses deux enfants, qu'il aime beaucoup, passionnément, parce que des enfants vraiment tout à fait remarquables. Il ouvre la porte, Joséphine rentre, et le lendemain, Lucien, le frère de Napoléon, qui se présente à l'hôtel de la rue de la Victoire, qui espère enfin trouver l'intruse sortie, elle est dans le lit de son mari.
Déception de la famille Bonaparte.
C'est un vaudeville.
Mais oui, c'est un vaudeville, effectivement. Bernard Chevalier, vous nous expliquez dans votre livre, et vous nous montrez dans ce livre, Joséphine Impératrice, qui est publié aux éditions du Chêne, qui est un très beau livre avec des illustrations, des photos, qu'elle a dépensé beaucoup d'argent. Comment meublait-elle ses résidences? Joséphine
a dépensé beaucoup d'argent, mais quand on compare avec Marie-Antoinette, vous savez, ce sont des dépenses normales de la souveraine du plus beau pays, du plus grand pays qui existait à ce moment-là en Europe.
Oui.
Donc c'est vrai que le problème, c'est qu'elle réagissait elle aussi en femme d'ancien régime, pour qui l'argent est un moyen pour vivre. On peut très bien être ruiné sans pour ça être déshonoré. Elle ne paye pas ses fournisseurs de temps en temps, quand ça lui passe. Par contre, Napoléon, lui, réagit plutôt en bourgeois de Balzac. On lui présente les factures, il enlève 10 centimes par-ci, 3 francs par-là. Ce sont là deux mondes totalement opposés.
Mais finalement, elle avait du goût.
Elle avait beaucoup de goût. D'ailleurs, on parle toujours d'un style Marie-Antoinette, mais du goût de Joséphine. C'est elle qui surveillait pour l'aménagement des palais impériaux, et elle avait vraiment un goût très sûr.
Joséphine a donc réussi in extremis à sauver son couple. Elle va devenir impératrice et devenir aussi une épouse dévouée. Peut-être même, vous allez nous l'expliquer, inventer le rôle de première dame. On vous raconte comment dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
J'espère bientôt, ma douce amie, être dans tes bras. Je t'aime à la fureur. Tout va bien. Il ne manque à ton mari que l'amour de Joséphine pour être heureux. Adieu, jusqu'à demain, mio dolce amor.
RTL.
Lettre de Napoléon à Joséphine.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On est curieux de l'histoire fascinante de Joséphine, l'impératrice qui a trompé Napoléon avant de devenir une épouse dévouée. Bernard Chevalier, vous êtes l'ancien directeur des musées nationaux de Malmaison et de Bois-Préau, administrateur de la fondation Napoléon. On vient d'entendre ces lettres de Napoléon à Joséphine. Il a continué de lui écrire pendant toute sa vie, ou c'était seulement dans les premiers mois ou les premières années?
Napoléon a constamment écrit à Joséphine. Évidemment, pendant la campagne d'Italie, c'était des lettres quasi journalières. Et puis après, il y en avait de moins en moins. Mais il y a toujours une correspondance et une vraie complicité dans ce couple. On disait lettres très très drôles, parce que Joséphine n'écrivait pas beaucoup, elle était paresseuse, et un jour où Napoléon n'avait pas eu de courrier, il lui dit « Daignez, puissante impératrice, descendre de vos grandeurs et répondre à vos esclaves ». Bon, ce sont des choses extraordinaires. Une autre fois, pendant la campagne d'Italie, où elle lui envoie un bref message, où elle le vouvoie en plus, Napoléon lui répond furieux « Vous toi-même ». C'était vraiment une complicité entre eux tout à fait extraordinaire.
Parce qu'il se tutoyait.
Il se tutoyait, oui, absolument.
Alors ça, c'était plutôt bourgeois, pas très aristocrate.
Ils faisaient lit commun ensemble jusqu'en 1802-1803, ce qui évidemment avait surpris tout le monde. À l'époque, il y avait deux chambres, une pour monsieur, une pour madame. Ils faisaient lit commun. C'était très bourgeois.
Il y avait un phénomène de cour autour de Joséphine et autour du couple.
C'est-à-dire que dès que Joséphine est devenue... la femme du premier consul, sous le titre peu heureux de consulesse, elle avait déjà eu des dames pour l'accompagner. Et lorsqu'elle est devenue impératrice, elle a eu une véritable maison séparée de la maison de l'empereur, maison de l'impératrice avec grand chambellan, premier aumônier, etc., avec des dizaines et dizaines de personnes autour d'elle, une cour plus importante que celle de Marie-Antoinette. Puisque la reine n'avait que 13 dames du palais pour l'accompagner, Joséphine en avait 29.
Elle l'a fait sciemment, c'était de la concurrence.
C'est Napoléon qui voulait. D'accord. Il voulait faire mieux encore que l'ancien régime.
Alors justement, ce sacre, on est le 2 décembre 1804, c'est ça? Donc on va bientôt commémorer le 210e anniversaire. Comment ça se passe? Il y a ce tableau de David qu'on connaît tous. C'est effectivement Napoléon qui place la couronne sur la tête de Joséphine.
Oui, ce tableau a un titre qui n'est pas le sien. Tout le monde dit c'est le couronnement de Napoléon. Pas du tout, c'est Napoléon effectivement qui pose la couronne sur la tête de Joséphine, Napoléon étant déjà couronné. Oui. C'est un acte magnifique. Et je crois que le jour du sacre, elle se croyait absolument intouchable et inattaquable, et que le fantôme du divorce auquel elle était confrontée avait disparu complètement dans son esprit ce jour-là. Et elle paraissait 25 ans. Il faut dire qu'elle avait comme maquilleur, le peintre Isabey, qui avait réalisé des miracles sur son visage.
Parce qu'elle avait quel âge?
Elle avait quand même... elle est née en 63 et elle avait donc 41 ans.
D'accord, ce qui était relativement âgé pour les femmes de l'époque.
C'est déjà l'autre versant de la vie.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle porte pour ce sacre? Un manteau magnifique.
Elle avait un manteau d'hermine brodé par Marguerite, avec tous les bijoux de la couronne. Elle était absolument resplendissante, et un diadème extrêmement lourd qui lui faisait une barre sur le front, et au point que le soir elle avait des maux de tête et des migraines vu le poids des diamants qu'elle avait apportés.
Alors vous nous avez raconté tout à l'heure, Bernard Chevalier, que la famille Bonaparte ne facilitait pas la tâche de Joséphine. Comment ça se passe ce jour-là?
Alors ce jour-là, c'est terrible, parce qu'évidemment, les trois sœurs de Napoléon, qui avaient pour mission de soutenir la traîne de l'impératrice lorsqu'elle gravissait les marches permettant de monter jusqu'au trône, ont plutôt... sinon soutenu, essayer de tirer l'impératrice vers l'arrière. Et c'est par un coup de rein extraordinaire et une mise au garde-à-vous de Napoléon envers ses sœurs qu'elle a pu rétablir l'équilibre et qu'il n'y ait pas eu d'accident. C'était une véritable vendetta, je vous ai dit.
Elle voulait la faire tomber,
absolument,
clairement.
Oui, en la faisant basculer en arrière.
Alors je disais tout à l'heure qu'elle a inventé le rôle de première dame. Est-ce qu'on peut dire ça, effectivement?
On pourrait presque dire ça, parce que avant Joséphine, ce sont les reines de France qui étaient vraiment sur le devant de la scène. Et puis, dès qu'elle est devenue la femme du général Bonaparte, déjà en 96-97, elle représente son mari. Quand il est en campagne, quand il va traiter de la paix avec les Autrichiens, elle est à Venise, on lui donne des fêtes sur le Grand Canal, elle est reçue par le grand-duc de Toscane à Florence, donc elle représente son mari, elle représente la France. Et il a fallu qu'elle invente ce rôle nouveau d'une citoyenne comme les autres, qui est la première femme sur le devant de la scène. Donc on pourrait dire, dans un certain sens, c'est un mot à la mode, que Joséphine est la première dame.
Et elle aimait ça, ce rôle-là?
Elle s'y est faite. mais elle aimait pas trop. Quand elle est en Italie, elle écrit comme ça à ses correspondants : oui, on me traite comme une archiduchesse, et je suis une simple citoyenne. On m'avait mis à ma disposition des dizaines de domestiques, et j'ai renvoyé tout ce monde-là, me cantonnant à mon habituel ménage de la rue de la Victoire.
Alors, elle cherchait un peu de simplicité. Est-ce vrai aussi dans la maison royale ou la résidence royale qu'elle préfère, c'est-à-dire la Malmaison ?
Alors, en fait, Malmaison est une propriété privée. En réalité, lorsqu'elle est femme du consul, elle n'a que deux résidences, les Tuileries, palais officiel, ancienne résidence des rois de France, et le château de Saint-Cloud, aux portes de Paris. C'est plus tard, avec l'arrivée de l'Empire, qu'elle peut habiter les autres palais. Elle a à sa disposition Versailles, qui n'habiteront pas, mais Fontainebleau, Saint-Cloud, Rambouillet, beaucoup de résidences dans toute la France. Malmaison est sa maison privée qu'elle a achetée en 1799, de son propre chef, sans argent.
D'accord.
Alors que son mari était en Égypte et elle n'avait plus de nouvelles du mari.
Et il y a beaucoup de très belles histoires à nous raconter sur la Malmaison. Vous y avez vécu combien de temps, vous,
comme
directeur ?
Deux fois plus longtemps que Joséphine, c'est-à-dire pendant 30 ans.
Donc plein de choses à nous raconter, c'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
Et grâce à notre invité Bernard Chevalier, aux illustrations que l'on trouve dans son livre Joséphine Impératrice, on est un peu à la cour de l'empereur, à la cour de Napoléon ce soir sur RTL. Mais je voudrais maintenant qu'on rentre dans cette résidence, la Malmaison, et notamment que vous nous parliez, évidemment cette émission s'appelle « La curiosité est un vilain défaut », du cabinet de curiosité de Joséphine. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Joséphine est une collectionneuse impénitente. On trouve de tout. Napoléon, d'ailleurs, appelait ça son fatras. Ça allait des peintures, des sculptures, des objets ethnographiques, puisqu'elle avait fait revenir de Polynésie des armes et des vêtements des peuplades qu'on appelait à l'époque sauvages. Il y avait des momies égyptiennes, il y avait une énigmatique pierre élastique du Brésil dont on ne sait pas ce que c'est. Et puis surtout, un cabinet entier d'oiseaux montés, naturalisés, il y en avait près de 600. C'était une collection absolument fabuleuse.
Et dans les jardins, il y avait des animaux aussi ?
Alors, Joséphine avait la passion des sciences naturelles. Elle était considérée comme une des leurs par les professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle. Il y avait des animaux vivants, il y avait déjà des kangourous, c'est un animal qui était relativement récent, puisque Buffon lui-même ne connaissait pas le kangourou. Donc il y avait des couples de kangourous qui naviguaient dans des espaces quasi naturels. On avait fait des enclos, ils n'étaient pas dans des cages, ils pouvaient se promener dans une partie du parc. Et surtout, la célébrité de Malmaison vient du couple de cygnes noirs venus d'Australie. On n'en avait jamais vu auparavant. Et c'est la première fois où des cygnes noirs se sont acclimatés en captivité en Europe, à Malmaison, puisque en 1814, à la mort de l'impératrice, il y en avait 7. Donc ça a été vraiment quelque chose de très important. Et puis elle avait des animaux, elle faisait des expériences extraordinaires, faisant accoupler un âne avec un zèbre pour voir le résultat. Ça fait un animal un peu étrange qu'elle faisait peindre immédiatement par un peintre du Muséum d'Histoire Naturelle. L'animal a vécu 6 mois comme ça. Elle avait aussi des animaux apprivoisés, comme un orang-outan qui avait une redingote, qui descendait des fois dans la salle à manger pour les repas, qui coupait ses navets avec un couteau et une fourchette. Tout un tas de choses extraordinaires qui la divertissaient.
c'est passionnant de vous écouter, Bernard Chevalier. Donc là, on est à la Malmaison, mais le couple impérial, où vit-il ?
Alors, le couple n'a pas été très très souvent ensemble, parce que Napoléon était constamment en campagne. Napoléon venait de moins en moins à Malmaison, qui était quand même trop petit après l'avènement de l'Empire. Mais le couple vivait essentiellement aux Tuileries en hiver et à Saint-Cloud en été, où là, l'étiquette était évidemment très pesante. Surtout aux Tuileries, où il n'y avait quasiment pas de jardin. Il y avait un tout petit espace. Dès que Joséphine se mettait à la fenêtre, les Parisiens accouraient au pied du palais pour l'acclamer. Donc il n'y avait vraiment aucune intimité.
Donc elle est populaire ?
Elle est très populaire, elle est aimée de tout le monde, Joséphine. D'ailleurs, au moment du divorce, dans l'armée, on dit « il quitte sa vieille ». Pensez à son âge, c'est le début de la fin. Donc non, les gens l'adoraient, surtout après, pour épouser la petite nièce de Marie-Antoinette, que les Français avaient guillotinée peu d'années auparavant.
Ouais. Pourquoi quitte-t-il Joséphine ?
Napoléon voulait un héritier à sa dynastie. Pendant un certain temps, Joséphine lui a fait croire que le problème venait de lui, en lui disant « moi j'ai eu des enfants, ensemble nous n'en avons pas ». Et puis un beau jour, Napoléon a quand même eu un fils avec la comtesse Walewska, la jeune polonaise. Et dès qu'il a su qu'il pouvait procréer, la décision a été prise de divorcer. Ça a été vraiment, pour lui, un drame. C'est un divorce politique. Ils ont été très malheureux de divorcer tous les deux. D'ailleurs, le jour du divorce est absolument extraordinaire. Chacun des deux époux faisait le compliment de l'autre. Et on a entendu Napoléon dire devant la famille impériale et devant la cour, « Elle a embelli 15 années de ma vie. » Qui dit ça en divorçant ?
Très bel hommage.
C'est un très bel hommage.
Effectivement, mais... que devient-elle après,
alors, c'est un divorce très bien négocié. Napoléon, d'abord, lui a laissé Malmaison en toute propriété avec toutes les collections. Il lui a acheté un château près d'Évreux, un immense domaine à Navarre, avec des jardins tracés par le nôtre. Elle avait aussi, comme résidence parisienne, rien moins que le palais de l'Élysée.
Elle y vivait de temps en temps.
Très très peu été, juste un mois, elle y a installé ses bureaux, simplement. Et puis quand en 1812, Napoléon lui a voulu reprendre le palais de l'Élysée, il l'a échangé contre le palais de Laeken, aux portes de Bruxelles, qui est maintenant la résidence du roi des Belges, où elle ne s'est jamais rendue. Et en plus, financièrement, il lui donne 3 millions par an. Bon, 3 millions, ça représente quoi ? Il faut savoir qu'à l'époque, à Malmaison, un jardinier gagnait 600 francs par an. Donc avec 3 millions, on est censé déjà voir l'avenir. Mais pas pour Joséphine, ça n'était jamais assez.
Pourquoi ? Elle continue de faire des dettes, de tout dépenser.
Elle est morte avec 3 millions de dettes.
Et c'est Napoléon qui couvrait. Enfin, elle est morte. Elle est morte à quel âge d'ailleurs ?
Elle est morte à l'âge de 51 ans, pendant que Napoléon était à l'île d'Elbe. Donc là, les dettes, il fallait bien qu'elle les règle. Alors qu'habituellement, généralement, quand elle avait des dettes, elle n'en avouait que la moitié.
C'est une technique,
mais elle savait y faire. Comme elle disait, je connais mon Bonaparte sur le bout du doigt. Donc elle avouait la moitié, c'est évidemment des cris épouvantables, Napoléon ne s'en remettait pas, il la remettait à flot tous les 3 ans. Et dans ces cas-là, Joséphine avait une arme imparable, elle pleurait. Et Napoléon ne savait pas résister aux larmes de Joséphine, alors il payait.
De quoi meurt-elle, Joséphine ?
Elle meurt déjà...
L'impératrice, et non pas Joséphine de Beauharnais.
Oui. Déjà, les derniers événements, l'abdication de Napoléon, l'ingratitude de ces aristocrates d'Ancien Régime que parfois elle avait sauvés de la mort, tout ça l'avait beaucoup affectée. Et puis, elle ait retrouvé un rôle important pendant la première Restauration, la fatigue l'a emportée. Elle a attrapé une simple angine, un simple coup de froid lors d'une promenade avec le tsar Alexandre dans la propriété de sa fille, la reine Hortense à Saint-Leu. Et en 4 jours, elle a été emportée d'une angine infectieuse.
C'était le 28 mai 2014, il y a un peu plus de
1814.
Qu'est-ce que j'ai dit, 2014, oui, c'est aujourd'hui, donc 1814, évidemment vous aviez rectifié de vous-même il y a 200 ans. Merci beaucoup Bernard Chevalier, heureusement que vous êtes là parce que je commence à raconter n'importe quoi. Pour en savoir plus et découvrir les illustrations, les tableaux et les photos signées Marc Walter, votre livre Joséphine Impératrice, publié aux éditions Duchesne. Merci beaucoup et bonsoir.
Vous écoutez RTL.